Et bah alors Mathieu, qu'est-ce qui arrive là? T'as ton petit thermo, ta camomille, ta petite couverture.
Attends, tiens mon thermomètre là que je sors de la bouche. Ah, je sais pas ce qui m'est arrivé, il y a dû avoir un sort de... un cône de froid, j'ai dû me trouver dedans. J'ai pas fait gaffe, j'étais en t-shirt, boum. Et ça ils le disent pas assez, hein. Les cônes de froid, on peut tomber malade, ça ils le disent pas assez. Et toi en revanche t'as l'air tout content.
Oui, tu vas rire. J'étais là, je me promène, et puis d'un coup, je vois une lumière. Bon, je me rappelle de rien, mais je vois une lumière étincelante, tout cela, magnifique. Et puis, je suis revenu à moi, et j'étais rafraîchi.
Ah, voilà. c'est mon cône de froid.
Ouais, je sais pas.
On verra bien. Rollistes TV, bonjour. Mathieu avec un seul T, mais plus toute sa voix, parce qu'il y a eu un gros épisode de fièvre dans les 3-4 derniers jours à peu près. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Donc, Fabrice, évidemment, avec moi dans l'auberge du Dévin. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Et comme on le dit, bien entendu, bienvenue à vous, où que vous soyez, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous nous écoutez. Et attention, si vous nous écoutez, par exemple, si vous allez du côté de Trolls et Légendes, et par exemple, parce que Fabrice y sera, vous pourrez lui faire un grand coucou, il aura son polo Rollis TV. Et puis également, si vous êtes en train de nous écouter pendant que vous êtes sur la route, faites bien attention autour de vous. Parce que justement, on n'aimerait pas que vous alliez dans les plans dont on va parler.
Exactement, exactement. Bon, c'est bien de rappeler aussi qu'il s'agit d'une discussion.
Oui.
Donc ici, surtout qu'on va aller quand même sur des détails. D'édition en édition, ça a pu changer. J'ai pu prendre des mauvaises sources. Donc au cas où, si c'est pas le cas, mettez-nous un petit commentaire. Et ce sera très très bien. On prendra la critique, on rectifiera tout cela.
Oui, et c'est d'autant plus intéressant, c'est que... On va parler, alors on a fait, on vous renverra aux différents plans. On a déjà fait les plans élémentaires, on a fait, je sais même plus, de toute façon je sais plus grand chose maintenant avec cette fièvre. Mais le point quand même commun, c'est que c'est très 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 peu décrit. Et que pourtant c'est là d'édition en édition en édition en édition. Et c'est ça que je trouve très étonnant. Et au début, donc, les fameux plans, ils étaient dans le Player's Handbook de AD&D. Ensuite, ils sont passés du côté du Dungeon Master Guide. Et un des points assez drôle aussi, enfin, assez drôle, chacun a son sens de l'humour, un des points qui je trouve assez intéressant à remarquer, c'est que alors que cette édition, la cinquième édition, a mis en avant le multiplan, à plus savoir qu'en faire, le multivers et tout ça, on est dans une édition qui n'a pas eu de manuel des plans.
Oui, tout à fait, à part peut-être un Planescape. voilà, on va éviter d'en
parler. Oui,
non,
mais c'est ça. Et encore, Planescape, c'est pas tous les plans. Hein. Donc, c'est ça que j'ai trouvé, que je trouve assez paradoxal sur cette émission. Alors, peut-être qu'on veut aussi faire table rase et aussi, reconnaissons-le, on va parler de plans qui font juste quelques lignes dans.
Un paragraphe.
Un paragraphe, voilà, dans le DMG. Et en plus, on ne les retrouve quasiment dans aucun supplément officiel.
Oui, c'est ça. Je pense que la première grosse apparition que j'ai pu voir, peut-être ici en cinquième, c'était lors de Critical Role, où justement, il s'aventurait à la fin de la première campagne dans ce genre de royaume.
Voilà, donc comme quoi, il y a quoi faire, et c'est fou comme quoi, dans un paragraphe, on peut faire beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, nous allons parler des plans supérieurs, des plans extérieurs. Alors, et tu fais bien de le préciser, parce que parfois, c'est un petit peu compliqué de faire la différence, parce qu'il y a des appellations, et c'est des appellations qui ont tendance à changer.
Oui, et aussi il faut savoir qu'au fur et à mesure des éditions ça a changé, et que tu as aussi différentes représentations cosmologiques de tous les plans, tout ça. Donc tu as la représentation avec Yggdrasil, celle qu'on va prendre ici qui sera plus normalisée en 5ème, c'est la roue, vous pour trouver je pense dans le Player Handbook, donc vous avez les différentes parties. Et justement pour cet épisode-ci, on a décidé de prendre ce qu'ils considèrent comme les upper plans, les plans supérieurs, et qui concluent plus par chez nous comme des paradis. Donc là, on connaît peut-être un peu plus de notre côté ce qui se passe en bas, c'est-à-dire les abysses et les neuf enfers.
Oui.
Parce que justement, il s'y passe des trucs, hein. on y joue. Mais le côté paradis, il est vraiment plus méconnu, je pense, des joueurs ou même DMJ, hein, s'ils ont zappé ça dans le DMJ plutôt.
Alors dans le DMG, hein, il est page 44. Donc nos fameux... alors on a le World Axis. Et puis donc, on a le Great Wheel, on a le World Tree. Il y a plusieurs donc, visions donc, en, d'Igné. Et puis on va retrouver le mont Olympe. On va retrouver également alors, la barge solaire. Toutes ces choses-là. Et ça fait effectivement deux colonnes.
Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces plans-là, contrairement par exemple aux plans élémentaires et tout ça, ils ont vraiment une idée d'alignement. Et c'est pour ça que je pense supprimer l'alignement dans D&D, ça risquera d'être compliqué, étant donné que tu as au moins ces plans-là qui représentent vraiment cet alignement. On le verra qu'il y en a certains qui partagent un ou deux alignements, ou ceux qui sont vraiment portés sur un seul alignement. Et en général, c'est très strict ce genre de choses qui s'y passent.
Alors justement, quels sont les différents plans? On va faire une balade. Alors je le dis tout de suite, ma voix et les différentes conditions que j'ai pu avoir auparavant font que c'est surtout évidemment Fabrice qui va mener la barque, c'est le cas de le dire. Et j'en profite également pour préciser, si vous l'écoutez cette émission et que vous avez un player's handbook qui est dans le coin, c'est page 303 dans la VF, où on a les différents plans d'existence et on se retrouve avec des plans extérieurs, donc les monts célestes, l'Arcadie, Bitopie, la Terre des Bêtes, l'Arborée, Isgard et les Limbes. Et c'est là où je me rends compte que les plans dont je viens de te parler, je ne sais pas ceux que j'ai lus, je ne vois pas le mont Olympus, bon, ils sont quelque part. Voilà.
Il y est, mais tu verras, c'est ouais. Un peu caché. Donc je pense qu'on va faire par l'ordre qui se veut, on va vers les territoires qui sont loyales, vers les choses un peu plus chaotiques.
Même loyaux. Non.
Oui. Voilà, merci Mathieu. Donc, je te propose de, peut-être, avant même d'entamer ici le premier plan, c'est de reprendre un peu l'idée de voyage dans les plans et des paradis, sachant que tu peux arriver sur ces plans-là de deux façons. La première façon, c'est étant un voyageur. Donc là, jusque preuve du contraire, ça c'est encore facile. Tu as différents sorts, tu as la possibilité de justement avoir le sort de transport des plans ou de tomber sur un portail et ce genre de choses. Ou les sorts gate, portail, je pense.
Oui.
De 9e niveau. Donc voilà, c'est quand même du solide.
Oui, on le retrouve pas tout le temps, celui-là.
Celui-là, voilà. Et donc ça, c'est la première chose. Avec projection astrale, tu peux aussi visiter par là. Donc ça, c'est seulement quand tu es visiteur, mais aussi, comme on parle de paradis forcément, comment ça se passe tout ça? Étant donné que tu vas te retrouver éventuellement sous forme d'âme pour aller vers un paradis. Donc au moment de ta mort, tu es censé, ton âme voyage vers un plan spécifique où tu seras jugé par le dieu Kelemvor qui, en fonction de ta foi, va te désigner, si tu crois en un seul dieu, t'es près d'un dieu, forcément tu vas directement aller dans le paradis qui correspond. Si tu vénères plusieurs dieux, comme ça peut être le cas, hein, vu qu'on voit qu'il y a plein de dieux différents, il y a même des panthéons, donc imaginons, toi tu es elfe, tu partages plusieurs offrandes à différents dieux sans vraiment en ayant un en particulier, ou même différents panthéons et ce genre de choses, bah là ça va être en fonction un peu plus de ta personnalité. Chose importante, donc ça va revenir plus tard. Donc là, en fonction de ta personnalité, tu seras envoyé vers le paradis qui te correspond le mieux, si t'es vraiment pas désigné par un dieu spécifiquement.
Donc on précise ça, c'est quand t'es mort. En fait, t'as une sorte
oui,
de play again.
C'est un peu. ça pourrait justement, si vous voulez faire une campagne après vie. Bon, il vaudrait mieux se retrouver dans le même plan. Donc là, forcément, ça risque d'être un peu compliqué. Mais ça pourrait être une idée. Et aussi, faut savoir, si tu ne crois pas en les dieux, ou que tu as fait en sorte de trahir des dieux, il t'arrive des bricoles à ce moment-là aussi. C'est le jugement, quoi. Hein, t'arrives à la mort, voilà, tu t'es bien comporté ou pas. Il y a un petit côté comme cela. Donc, si. Le pire chose qui peut arriver quand tu meurs, c'est de ne pas croire à un dieu ou en ayant fait en sorte de vraiment saccager des temples et tout ça, ne pour pas profiter à notre dieu, par exemple. Tu vois,
genre, ça, c'est quand même. Je sais pas qui a joué ça déjà.
Oui, voilà.
Et puis surtout, excuse-moi, mais c'est. On sait très bien que la relation au dieu dans Donjons et Dragons, on vous renvoie à ce qu'on avait fait justement sur les divinités, c'est une relation qu'on va qualifier de mercantile. C'est-à-dire, je reçois des choses on ne reconnaît jamais quelqu'un qui dit moi j'adore, je sais pas, qu'elle aime voir, mais la personne est pas claire. On a l'impression qu'il y a qu'une seule de personnes, il y a que les personnes qui reçoivent des choses des dieux qui croient en ces dieux-là. C'est juste ça que je trouvais ça un peu étonnant.
Bah, tu peux rendre hommage, imaginons tes paysans, tu rends hommage aux dieux pour les moissons, tout ça. Donc là, automatiquement, tu y crois, tu rends hommage, tu es qualifié pour aller au paradis. Tandis que si t'es vraiment, tu ne crois pas aux dieux, tu réfutes même la théorie des dieux, ce qui serait un peu bête, dans le sens où les dieux s'incarnent, il y a des pouvoirs divins et tout ça.
Oui, parce qu'on sait qu'ils existent quand même.
Oui, voilà, on sait qu'ils existent. Mais si t'es vraiment, vraiment le type qui veut rien savoir, là, te réserve le mur. Donc ton âme est envoyée pour être cimentée sur un mur. Et donc tu restes sur un mur jusqu'à l'éternité et te faire absorber par le mur. C'est sympathique.
Mais c'est vraiment intéressant parce que tous ces trucs-là, on est dans Donjons et Dragons où on passe son temps, allez, au moment où c'est publié, on passe son temps à explorer des trucs et aller dans des souterrains. Et là, on va dire que la métaphysique elle compte pas trop, surtout que bah, quand ton personnage meurt, qu'est-ce qui se passe? C'est que t'en fais un autre.
Oui.
En tout cas, c'est intéressant. Et encore une fois, bah, on rejoint le potentiel non exploité de Donjons et Dragons, dont on parle souvent.
Oui. Et au cas où tu as été quelqu'un qui a trahi un dieu, tout ça, bah, il t'est arrivé un châtiment, ce genre de choses. Et c'est aussi à cet endroit-là que certains démons éventuellement tentent de convertir les âmes en disant non, mais viens en enfer, tu vas pouvoir faire carrière chez les démons, tout ça. Bon, bref, il y a des choses un peu marrantes à découvrir. Donc, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Mais rentrons dans le vif du sujet peut-être, Mathieu.
Donc, où est-ce que je vais quand je meurs? Quand pour y aller?
Je ne sais pas, Mathieu. Est-ce que tu... Hein, ça dépend de tes croyances et de ce que tu as fait dans ta vie, ce genre de choses. Bon, on va quand même commencer par le premier plan qui est Arcadia, qui est un plan loyal bon et loyal neutre. Donc là, c'est ce que je disais en introduction, c'est que certains ont la double spécialité. Et là, il est reconnu comme étant, il a un deuxième titre, hein, souvent ils ont un ou deux titres, et là c'est le royaume de paix de Arcadia.
Alors là aussi, pour ceux qui veulent s'y intéresser, il y a eu beaucoup de choses hein, qui ont été faites dans le manuel des plans de la troisième édition, qui est un des meilleurs, je trouve, manuels des plans. Parce que justement, alors, il y a des plans, pas planes, mais maps, et on sent qu'ils ont mis des efforts dedans.
Ah oui, et une chose aussi importante à signaler, c'est que ces fameux plans se découpent aussi en couches. Ici, ils ont appelé ça les layers. Et donc, un même plan peut comporter plusieurs couches différentes. Là, ici, en ce qui concerne Arcadia, il y en a seulement deux. Et encore, je reviendrai là-dessus juste un moment. Ce plan-là, il représente vraiment la paix. Et aussi la balance parfaite. C'est-à-dire que tu arrives, vu qu'on est sur quelque chose de loyal, on a vraiment quelque chose de construit, de droit, genre de choses. Donc tout ça ici va être régi sur vraiment cette question d'ordre où tu auras tes arbres, tes maisons, tes villes, tes montagnes qui seront vraiment parfaitement, géométriquement
alignées. Des forêts, c'est qui sont dessus. Alors, c'est. Et tu le dis bien, et c'est un point là que tu as souligné tout à l'heure en parlant des alignements. Là, par exemple, quand tu te balades en Arcadia, les personnages chaotiques subissent un malus de 2 sur tous les jets de charisme. Et on apprend aussi que Arcadia, gravité normale et temps normal. Bon, tant mieux.
Oui. Justement, en parlant du temps, Mathieu, il faut savoir que Arcadia, vu que c'est la division parfaite, a un mode jour et nuit. C'est-à-dire qu'il y a une orbe qui s'oriente au sommet d'un démon, d'un des plus grandes montagnes, et qui t'indique s'il fait jour ou il fait nuit. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que tu vas passer d'un coup d'une rotation où il fait jour et il fait nuit. Il n'y a pas d'aube, il n'y a pas de coucher de soleil, de lever de soleil. Soit la nuit, soit la journée.
Ça peut être surprenant, effectivement.
Sinon, ce qu'il faut savoir qui est intéressant aussi, c'est que le plan est régi par 4 Storm King. Donc là, pour la traduction, Roi des tempêtes.
Alors, c'est intéressant que tu soulignes ça parce que là, tout ce que tu viens de nous dire, il n'y en a pas un mot en cinquième.
Peut-être il y a un petit mot sur les quatre ici.
Dans le DMG.
DMG. Oui, une petite ligne sur ça, je pense.
Une ligne,
j'avais vu lors
de
mes recherches.
Fort.
Oui.
Je vois plus rien ce soir, mais je suis là.
Et donc, ces quatre souverains, c'est des demi-dieux, c'est des géants. Donc, ils sont appelés King, mais en fait, il y a deux rois et deux reines. Donc là, il y a une parité aussi là-dessus. Et donc, tu vas retrouver ces géants qui font en sorte que chaque saison va être balancée d'une certaine manière. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'il y ait de la pluie, il faut qu'il y ait des nuages ou du vent ou de la neige à certains endroits.
Alors, ici... On est d'accord que ni la Belgique ni la Normandie ne sont donc équilibrées comme les plantes Celestia.
Non, je pense que le roi des nuages et la reine du vent aiment bien s'arrêter ici.
Oui, ça pique-nique souvent.
C'est ça. Et donc, ils ont chacun leur citadelle qui sont entourées de leurs propres éléments respectifs. À côté de ça, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des toute la faune, la flore... cela au niveau des animaux, c'est que typiquement on va retrouver les animaux de tout ce qui est montagne et forêt, et qui ont une particularité, c'est qu'ils ont des couleurs métalliques, c'est à dire que tu vas pouvoir te retrouver des lapins en or, des moutons d'argent, et à côté de ça aussi ils ont des yeux blancs qui voient au travers des illusions.
On précise que les lapins en or n'ont aucune valeur sur le marché, et puis en cette période de Pâques qui arrive, je trouve que c'est très risqué comme des lapins en or.
Oui, bah après le truc qui est bien, c'est que les animaux, vu que c'est vraiment un plan qui représente la paix, c'est que tu peux aller même caresser un lion d'or sans qu'il te fasse rien, étant donné qu'ils sont paisibles. Il y a beaucoup de sorts qui fonctionnent pas aussi, ça c'est une des choses qui se passent normalement dans certains royaumes, c'est que certains sorts ou certaines choses ne se passent pas. La majorité des habitants des royaumes sont souvent, même s'ils sont tués, ils sont ressuscités. Donc là, ça dépend un peu des plans, donc on verra un peu spécifiquement quand c'est vraiment le cas ou qu'il y a quelque chose d'autre. Mais par défaut, en général, ils sont assez ressuscités. C'est là aussi où tu vas pouvoir retrouver des sphinx, des kyrines, ce genre de choses.
Voilà, que des créatures. Mais c'est... Tu vois, si on prenait notre émission, on prenait juste un extrait, là, de ce dont on vient de parler, beaucoup de gens se diraient « Mais vous parlez pas de Donjons et Dragons, c'est pas possible. »
Oui, c'est ça qui est particulier, c'est qu'il y a beaucoup de choses que t'as pas l'habitude de retrouver dans tes aventures. Je vais couper court peut-être pour ce plan-ci, en disant que donc les pétitionneurs, c'est ceux où les âmes sont envoyées, ils ont un terme spécifique. Les pétitionneurs sont normalement des guerriers qui sont battus pour le meilleur bien, des philosophes, des gens qui étaient vraiment portés sur la bonté et l'honneur. Donc ça va vraiment être le paradis de ces gens-là. Donc ce paradis assez... vraiment où t'as la paix, c'est tranquille, c'est calme, il y a beaucoup de gens, ils viennent là, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de paradis où c'est pas le cas, en fait. étant donné qu'il y a certains paradis qui vraiment essayent de te donner des défis. À côté de ça, je noterai juste que c'est un lieu où tu peux retrouver un forgeron, une montagne de forgerons naines réputées au travers... au travers des plans qui ont l'habitude d'imbiber leurs armes avec de l'essence célestiale. Donc si vous combattez des démons, voilà, le bon endroit pour arrêter.
J'essaie de comprendre à partir de quel niveau on pourrait jouer à ça.
Ben, à partir où tu peux voyager dans les plans.
Ouais.
C'est-à-dire, je pense que le sort, c'est un sort de niveau 7 ou de niveau 5, je ne sais plus. Et puis de toute façon, tu peux trouver des portails comme ça aussi.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose.
Mais bon, en face, hein, les habitants, c'est pas des enfants de cœur. Hein. Faut mieux éviter de mettre trop de bazar. Hein.
C'est ça. Bah, ici, ça va justement. Tu vas pas trouver trop de choses qui vont vouloir te faire du mal. et donc, tout ce que j'ai expliqué, tout ça, c'est sur le premier plan. Tandis que sur le deuxième plan, qui est pareil, hein, c'est un peu symétrique, qui ressemble à l'autre plan. Celui-là, Buxenos, je pense. C'est un peu spécifique, étant donné que c'est un plan un peu moins tranquille, étant donné que c'est là où s'assemblent toutes les armées de ce plan. étant donné qu'ils ont pour but de reprendre un plan, le troisième layer, la troisième couche, qui a été absorbé par Mécanus, donc le plan d'en dessous, étant donné que ce plan-là était devenu trop loyal.
Et c'est là que tu fais je ne sais pas, je ne sais plus. Hein.
Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses, mais voilà. Et c'est là, par exemple, où tu peux aussi trouver le duo Horus, Isis, Osiris, et puis éventuellement pour les royaumes oubliés, Azut, donc qui est le dieu des wizards, des magiciens. Il y a d'autres dieux, bien entendu. En général, je vais citer les plus importants qui se trouvent dans les plans parce qu'il y en a tellement. Et c'est là aussi où vous voyez que vous allez rentrer dans les domaines divins, genre de choses. Et comme je le disais, ce plan-là, c'est le plan vraiment tranquille où t'as pas trop d'aventures. C'est celui où tu vas te reposer ou éventuellement tu passes pour t'armer.
Oui, aussi, oui. Aussi.
Voilà. Donc, le gros du morceau maintenant, on va arriver sur le Mont Célestia. Le Mont Célestia, c'est ce qui représente le plus de mes notes. Donc,
en anglais, c'est le Mont Céleste. En français, c'est le nom céleste, le public aura corrigé. Voilà, le nom voilà. Céleste.
Donc là, je pense, Mathieu, quand te dit le paradis, qu'est-ce que tu penses? Parce que normalement, le Mont Célestia, c'est celui qui est le pendant le plus paradisiaque, on va dire ça, je pense. Qu'est-ce que quand tu dis paradis?
C'est, en littérature, on parle de la terre de lait et de miel, a land of milk and honey, et puis de toute façon, ça vient de la Bible. Et c'est vrai que quand tu regardes la description de Célestia, ça y fait un petit peu penser quand même. La terre de la splendeur, là où on idéalise le bien ultime.
Oui, oui, mais c'est aussi ce paradis où, bonjour, tu vas t'améliorer pour grimper la montagne. C'est, en gros, quand tu arrives ici, en tout cas les âmes, ça peut être les visiteurs ou quoi, ils arrivent et déjà c'est bonjour, tu tombes dans la mer, donc le plan comment il se découpe, c'est il y a une mer et tout il y a une île plutôt avec une montagne et tout autour c'est une mer et la mer faite d'eau bénite, donc oui. Les diables qui arrivent là, ils ont un bon accueil.
et en plus là quand t'es chaotique mauvais, donc là t'as moins 4 sur tous tes jets de charisme.
Oui, 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 oui. Là, c'est en général ici que les démons, de temps en temps, ils viennent jouer des sales tours. Hein. Sachant que c'est un peu comme les enfers, comme je le disais, les neuf enfers. Bah là, c'est le Mont Célestia est découpé en sept couches, donc les sept paradis. Et chaque paradis, on va voir qu'il y a des choses.
Et justement, c'est écrit que dans les traits, la taille est infinie et que chaque couche est infinie.
Oui, oui. C'est une grosse particularité des plans comme ça un peu célestial, c'est que tu as beaucoup de choses qui sont infinies, que ça part très très loin, bien que ce qui nous intéresse c'est souvent au centre, ou oui, alors oui. Certains points se déplacent justement dans le plan, donc là c'est à toi de te démerder à trouver l'endroit, mais oui, ce genre de plan c'est énorme quoi, c'est des mondes entiers quoi, c'est clair. Tu arrives pas et tu passes pas la barrière de jeu vidéo, c'est celle qui t'arrête là.
Oui là c'est le truc magique, ouais, là c'est vraiment... Oui.
Et encore, tu as éventuellement des passages où tu pourrais passer d'un plan à l'autre. C'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais qu'il y a des passages possibles d'un plan à l'autre. D'ailleurs, c'est le cas ici à la première couche. Étant donné que tu arrives sur une cité qui a la possibilité d'être une cité portuaire et qui peut t'emmener dans les différents paradis possibles. Donc il y a le cours d'eau, je sais plus comment il s'appelle,
ouais.
Mais qui passe là et tu pourrais très bien décider de transporter. Donc là éventuellement ça peut être un lieu de passage aussi. Mais tout l'intérêt de ce paradis là, c'est de monter la montagne. Il faut savoir que même les dieux ont dû monter la montagne. Étant donné que les paradis aussi et ces plans là, ce ne sont pas les dieux qui les ont créés. Ces plans là existaient avant les dieux.
Avant les dieux, oui.
Et même, on se demande si ça n'existait pas avant les titans et tout ça, étant donné qu'il y a certains endroits où les titans, les géants, avant les dieux olympiens, ils habitaient aussi tout cela. Or, rentrons sur le gros du sujet, qu'une fois que tu arrives là en tant qu'âme en peine...
Oui, là tu dis que t'es quand même... Oui. C'est pas fini pour toi.
C'est pas fini, et c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, ce plan-là c'est Loyal Bon. Donc ça c'est le plan des paladins, les paloufs un peu cons qui font justice prévoira, il faut pour le bien. Donc imagine ce paradis là aussi. Quand tu arrives là, tu es en tant qu'âme, tu es une sorte de boule lumineuse. Et tu vas me faire, bah c'est un peu con, je suis une boule lumineuse, c'est un peu particulier. Mais tu vas pouvoir évoluer. Tu vas pouvoir évoluer au fur et à mesure de ton ascension, etc. De comment tu te comportes. Et il y a plusieurs, donc un terme spécifique, quand tu arrives là, tu deviens un archon. Et tu vas pouvoir évoluer de plusieurs formes. Bon, je te la fais rapide, dans le sens où une fois que tu as passé l'étape boule lumineuse et que tu as évolué, tu évolues en une sorte d'homme-chien. Donc tu es un humanoïde chien. Et bon, là, une fois que tu as retrouvé un peu de corporance, de carrure, quand même, tu vas pouvoir accomplir d'autres tâches, voyager plus facilement, ce genre de choses. Donc là, dans les premiers temps, tu es censé un peu garder les nouveaux venus, les guider, ce genre de choses. Après, tu passes au stade du gardien Archon, et là, tu ressembles plus à un ours.
Oui, alors, je pense qu'on serait dans les archontes, hein, pour ceux qui voient ça. Mais surtout, c'est ce qu'il disait. Il disait que les archontes, c'est à Celestia ce que les démons sont aux neuf enfers.
Exactement. J'ai oublié de préciser cela.
Tu sais pas lequel des deux est le plus effrayant, en fait.
Ah, je ne sais pas. Sachant que n'importe quelle âme qui arrive là, aussi important à savoir, c'est que les archons sont différents des anges. Étant donné que les anges sont en fait l'essence d'un dieu qui a été divisé et créé un être célestial avec ça. Donc il y a une grosse différence entre les deux parce qu'on les confond beaucoup. Sachant que sur la forme suivante, donc le sword archon, l'épée archon, tu redeviens un humanoïde. Et tu as deux épées enflammées, je ne sais quoi. Et bon, à ce moment-là, tu redeviens humain. Et imaginons une campagne où tu redeviens humain. Tu pourrais commencer à rejouer, même avant, avec ta forme un peu chien là. Tu peux recommencer à jouer clairement. Ah oui, et c'est vrai, j'ai oublié de préciser que lors de ces étapes, bien sûr, tu les sautes pas de une à une. Tu as un peu un système dedans. C'est-à-dire que tu as un collier qui représente où t'en es. Dans ton ascension vers les différentes étapes, et donc tu passes par différents métaux, donc qui représentent ta puissance et ton évolution. Donc tu passes du plomb, laiton, bronze, argent, or et platinium. Et après platinium, tu passes à l'étape suivante de ton évolution.
Alors, est-ce que c'est parce que donc c'est du platine, mais on retrouve un des vieux copains, enfin vieux copains, ça dépend pour qui, de Donjons et Dragons, parce que Bahamut. Oui. Le dragon de platine vit là-bas.
Exactement. Il a son palace, son palais, qui... Alors, c'est un peu une particularité au niveau des domaines divins, étant donné que Bahamut a à la fois son palais qui est physiquement présent dans le plan, et c'est pas juste un royaume, parce que beaucoup de dieux ont le royaume à l'intérieur de la couche et du plan. C'est un peu compliqué là, on commence. Mais
oui,
il y a un système d'emboîtement, on va dire ça. Et donc tu as normalement le plan, la couche, le layer, et puis le royaume du dieu. Donc tu passes des entrées comme ça, et là Bahamut, justement, il a son palais directement au niveau de la couche, au niveau du plan. Et qui plus est, on ne sait pas comment il a fait, mais son palais est présent dans les 4 premiers paradis. C'est-à-dire que tu pourrais très bien, lors de ton ascension, passer par son palais pour prendre un petit raccourci et d'arriver tout au-dessus, étant donné que, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, le but c'est quand même de monter de paradis en paradis, mais chaque paradis représente une épreuve en soi.
Oui. Et d'ailleurs, j'en profite hein, pour, parce que c'est toujours l'occasion, à chaque fois que je l'entends, de le caser. Il faut savoir qu'à la base, hein, le Bahamut, c'était le poisson ou la baleine qui supportait le monde selon les traditions arabes. Et ça a beaucoup changé. Et là, j'ai ces statistiques au brave Bahamut, donc pour en D&D 3. Devine combien il a en attaque, en bonus. Alors évidemment, c'est pas les mêmes, on n'est plus dans les mêmes systèmes par rapport à
25-30.
Plus 66. Il a plus 66, plus 61, plus 61, plus 61.
C'est un CR combien ça? Parce que en général, les CR représentent plus ou moins une bonne mise à niveau en général.
Oui, alors donc c'est un CR 25. Hein.
Que 25?
Ouais, challenge rating. Ah. Dragon colossal. Alors attention les points de vie. Alors il y a des moments le bonus, enfin c'est 53d12. Donc vas-y, va lancer ça à 4h du matin. Plus 742 points de vie. J'ai l'impression d'être dans des chiffres et des lettres. Donc en gros, c'est 1000 points de vie. Et qu'est-ce que j'ai eu? Alors, classe d'armure 54, donc c'est pour vous dire que Voilà, ça a changé par rapport à ce qu'on connaissait. Et lanceur de sort 20e niveau.
Ok, pas mal notre ami Bahamut.
Comme aurait dit le nain, faut pas l'emmerder.
Voilà. Ah, ça c'est clair. Bon, on reprend peut-être nos archons. Donc les archons, je les fais rapidement aussi. Hein. Donc de sorte archon, tu passes à trompette archon. Et là, tu deviens une sorte d'émissaire des dieux. Et tu peux retourner sur plan matériel, attention, pour envoyer des messages. Ou alors guider les âmes de ceux lors d'un sort de ressuscitation ou ce genre de choses. C'est-à-dire que l'âme qui arrive ici au Mont Celestia, bah, elle est au Mont Celestia. Mais pour la remettre sur le plan matériel ou autre, hein, même si, imaginons, tu es au nouveau enfer, tu essayes de ressusciter quelqu'un, bah, l'âme, elle doit être transférée. Et donc, elle est accompagnée par justement ce trompette Arcon.
Et c'est fou, parce que là, on va pas faire évidemment toutes les couches. Mais quand on arrive à la 7e couche, je crois qu'on arrive dans donc est le maximum, Kronias. Oui. On arrive, je trouve, dans un des points les plus alors pas fascinants, mais les plus improbables de Donjons et Dragons.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as comme renseignement, toi, de ton côté?
7e couche de Celestia est aussi appelée le paradis illuminé. Donc c'est Kronias, son nom. Kronias est un mystère et certains disent qu'il est le mystère. Oui. Ceux qui réussissent à l'atteindre ne sont jamais revenus. Et on sait que ceux qui entrent ont leur bien, leur bonté inhérente qui est mise en avant par les essences de Celestia. Et donc, en revanche, si en eux il y a le mal, à ce moment-là, attention, je te le dis, leurs âmes sont réduites à néant et leur existence est effacée de manière permanente du multiverse. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le côté d'avant. C'est le côté, c'est le mystère. C'est,
oui.
Alors, on pose peut-être d'ailleurs la question de pourquoi est-ce qu'ils font ça dans Donjons et Dragons. Et que, également, toutes les personnes qui critiquaient pendant la fameuse panique morale, le côté satanique de Donjons et Dragons, on aurait dû leur dire, tenez, regardez, on peut devenir... On peut entendre des chants, tout ça.
Et justement, même les dieux apparemment ne savent pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est pour vous dire. Hein. Là, clairement, le haut de la montagne, le dernier niveau, il y a ça. Mais je reviens juste fait sur les archons. Donc tu as trompette, puis tu as trône, et puis tu as tome. Et là, le tome, c'est intéressant étant donné que ça représente vraiment des gens qui ont une personnalité. Donc c'est pas juste ton diable XY, l'équivalent. Mais là, tu as un peu comme les ducs. Les ducs des enfers, où justement tu as ces Tom Arcon qui ont des personnalités. Et tu parlais du système paradis.
Oui, la 7e couche.
Il faut savoir que le gardien de cet endroit, c'est Zafkiel, je pense. Je prononce certainement mal.
Et justement, si tu veux rentrer dans cette couche, tu dois le prononcer en un coup sans te tromper, et ainsi que l'écrire sans te tromper. Sinon, tu es effacé du multiverse.
Ouais, et donc ce serait le seul à savoir ce qui se cache à ce niveau-ci. Sachant que, apparemment, ce serait aussi la première âme à être rentrée sur Mont Celestia.
La question que je me pose, hein, c'est mais qu'est-ce que ça fait dans Donjons et Dragons, cette histoire?
Ah, je ne sais pas. Mais il faut savoir aussi que cette chose-là de première âme qui rentre dans une couche, c'est déjà le cas avec Demogorgon. Enfin, on verra quand on fera les abysses. La première personne à rentrer.
Et je pense aussi que si on les a pas, ces plans supérieurs et tout ça, si on les connaît aussi peu, c'est parce qu'effectivement, moi j'arrête pas de me dire, mais qu'est-ce qu'on peut jouer? Qu'est-ce qu'on peut faire dedans?
Il y a plein de choses, Parce que là,
ce que je veux dire, on serait pas dans ton aventure classique de Donjons et Dragons, descente en Avernus si tu dois aller exploser tout le monde. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui. On se retrouve pas du tout avec les schémas actantiels classiques de Donjons et Dragons. On est dans quelque chose qui est complètement différent.
Oui. Bah, y a beaucoup de choses où tu te dis il me faut une relique sacrée ou quelque chose d'énorme, tu sais, ça fait partie des fins de quête, des fins d'aventure de méga campagne,
sacrée quête, la vache,
de te rendre dans certains lieux que pour obtenir telle aide divine, tel armement, telle armure, tel ingrédient secret, j'en sais rien. Mais pour te dire voilà, il y a moyen de jouer des choses. Après ici il y a Il y a beaucoup, c'est vrai, dans ces plans-là. Après, c'est un peu tu picores, quoi. C'est-à-dire que ouais, tu choisis ce que tu fais.
Et je me pose vraiment la question de... Donc, c'est Jeff Grubb hein, qui a fait les différents... Enfin, en tout cas, c'est lui qui a commencé le manuel des plans, mais il n'était pas, pas dedans après le... Enfin, c'est lui qui a commencé le premier manuel des plans. Après, tu as eu Bruce Cordell qui est arrivé et tout ça. Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est le travail qui a été donné. Parce que il faut, quand tu les lis, les plans, je trouve que ça ne se lit pas comme un donjon. C'est-à-dire, et ça ne s'écrit pas comme un truc de donjon. Faut que tu trouves à chaque fois des choses qui soient suffisamment, qui représentent des défis. Et c'est pas évident du tout, parce que là, il construit sur quasiment rien. Et se dire qu'en fait, qu'ils font tout ce travail pour que ça soit aussi peu joué, c'est...
Oui. Bah, des fois, il faut faire un peu de remplissage d'univers, hein. Que ce soit exploité ou pas, bah, au moins c'est là.
Oui, tout à fait, c'est là.
Qui
c'est
bien du fait maison, moi je me dis, bah, c'est là. Si j'ai envie de faire une aventure, je peux. Par contre, la personne qui se fait, j'attends qu'il y ait une aventure officielle qui sorte, je pense qu'ils peuvent attendre.
Mais je suis content de cette victoire du fait maison. On a le triomphe du fait maison avec. Avec justement ces plans. C'est là le. Et puis, je dirais que c'est même plus que du fait maison, parce que c'est du. On va ailleurs, on efface tout ce qu'on connaît auparavant, et tout est laissé à la volonté et à la création du maître de jeu. Ce que je trouve superbe, ce que je trouve magnifique. Mais tu te dis que, effectivement, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on attend de Donjons et Dragons. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est ce qu'on attend, c'est dans le verbe expect. Et je pense que c'est peut-être aussi une des pistes pour laquelle il n'y en a pas eu en 5E, parce que tu as vu ce que tu viens de décrire.
Oui.
C'est d'une très très grande précision, et on sait à quel point cette 5E justement aime beaucoup rester en surface pour pas perdre les nouveaux joueurs.
Oui, tout à fait. Après, peut-être ils arriveront à trouver un truc, j'en sais rien.
Ah bah oui, c'est ce que je trouve triste, c'est que ça a été mis de côté alors que on a la citadelle radieuse, on a eu, je pense, facilement dans cette 5E, on a dû avoir une vingtaine de nouveaux plans qui ont été ou des plans de poche qui ont été représentés, qui ont été créés, alors que finalement il y avait un sacré magot à pouvoir exploiter en scénario.
Oui, c'est ça. Et ce que je me dis aussi, c'est, vu que tu parlais de citadelle radiante, là, ça me fait penser du fait que où tu es dans la citadelle et ça représente une sorte de territoire où tu peux pas mourir, il y a rien, enfin, ce genre de choses. Bah là, justement, dans Mont Celestia, où tu es, justement, tu vis des aventures parce que t'es censé monter dans tout ça, mais tu ne vas jamais vraiment mourir, étant donné que même si tu meurs, tu es ressuscité pour continuer ta quête, en fait. Donc, ça peut mettre le petit coussin aux joueurs et quand même de les refaire leur aventure, parce qu'on voit bien en 5e, les gens, ils aiment pas mourir. Ça, c'est clairement, ils s'attachent de trop à leur perso. On est plus sur le côté où bah, tu te prends un piège, tu meurs. Voilà. Hein. Et là, ça pourrait représenter des choses intéressantes à faire, à jouer, hein, et même faire juste une campagne sur le fait, voilà. C'est un peu comme quand t'es dans Ravenloft. Tu arrives là, bon, t'as plusieurs pistes pour arriver là. Tu arrives sur le Mont Celestia et toi et tes potes, vous devez grimper. Voilà. Vous devez grimper jusqu'au bout.
Et puis là, ça va pas être facile tout le temps, mais c'est quelque chose qui est... Ouais. C'est évident que c'est à la fois pour des maîtres de jeu très expérimentés.
Mmh.
Je pense aussi que c'est pour des joueurs qui sont quand même assez expérimentés. Parce qu'il faut bien prévenir, je pense, en tant que maître de jeu, il faut bien prévenir ces joueurs que bon, attends, il va pas y avoir du gobelin, on va s'éloigner de ce côté très médiéval, avec les armures et tout ça, on va jouer autre chose.
Bon, sinon, vu qu'on fait en résumé, hein, on va pas tous les faire, vu que bon, j'ai pris beaucoup de notes, même.
Non, mais c'est bien, de toute façon, t'as parlé
des choses
importantes, oui.
Je vais citer un endroit que j'aime bien, c'est Greenfield, donc les champs verts. Mm-hmm. Ça se situe au troisième niveau, au troisième paradis. Et là, tu as le panthéon des elfes là. Donc, en gros, tu arrives. Donc là, c'est un royaume à l'intérieur de la couche. pour te dire. Seulement les gens qui sont dignes peuvent trouver l'entrée, attention. Donc je suppose beaucoup les hobbits ou les amis des hobbits. Enfin, hobbits, je dis hobbits, alphelins, attention, le procès.
Oui.
Et là, t'arrives sur un endroit où c'est vraiment... Il y a des comtés partout. Enfin, des comtés un peu différentes, mais vraiment, les villages alphelins, c'est la place où il fait bon vivre, t'as le meilleur théo dans le multivers, le meilleur tabac, la meilleure nourriture, et c'est vraiment la joie, ce genre de choses.
Exactement, là, ils expliquent que toutes les récoltes sont abondantes. Mm. Le temps est toujours agréable.
Oui.
Et que on y trouve la déesse Yondala.
Aussi, oui. Et qui est une déesse les plus puissantes du multivers.
Ouais, je t'avoue que je connaissais pas du tout son nom, mais c'est une déesse. Une déesse, donc. Halfling, et puis ils mettent qu'il n'y a pas de grands prédateurs qui vivent sur ces Greenfields.
Oui. Oui, il y a beaucoup de paradis où justement il fait bon vivre, quoi. Il y a plein d'endroits où il fait vraiment bon vivre. Bon, ici c'est typiquement dans le truc où on te pousse à escalader et à vraiment aller sur l'improvement de soi et d'aller sur des chemins d'illumination et tout ça. Il te donne plusieurs idées par rapport à certaines valeurs, genre, je vais pas les citer ici, mais voilà, chaque âme est censée chercher un chemin pour s'améliorer et grimper physiquement, mais grimper aussi mentalement.
Alors, on est arrivé, donc, comme tu disais, donc, là c'était sur une des couches, hein, les Greenfields, hein, c'est sur la troisième couche.
Ouais.
Là, tu as d'autres choses à nous dire ou tu nous emmènes sur une autre?
Bah, j'ai plein d'autres choses.
Alors, est-ce que tu peux nous emmener sur Bytopia? Bytopia, je trouve que c'est une des plus intéressantes.
Enfin, justement.
Visuellement, elle est en tout cas très intéressante.
Oui. Donc, tu as un peu un jeu de mots là-dedans parce que tu as Bytopia, mais aussi Bytopia. Donc, je vais expliquer ça aussi. Le party, là, il n'y a que deux couches. Justement, c'est une couche de couches, ça semble assez peu. Mais ce qui est intéressant là-dedans, je sais pas si tu as vu le film Upside Down.
Mm-hmm. Oui, tout à fait, c'est à ça que j'ai pensé.
Exactement. Donc pour décrire un peu à nos auditeurs, il s'agit de... Il y a certes deux plans, mais c'est deux plans qui sont à la réflexion de l'un de l'autre. Donc le premier plan, il est situé au-dessus et le deuxième plan en dessous, mais il y a des endroits où c'est relié par des géantes tours ou en tout cas des formations naturelles de cavernes.
Mmh.
Et là aussi, fait intéressant, c'est par rapport à tout ce qui est l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a des orbes pour la journée, mais la nuit, c'est l'autre côté. Te donne la voûte céleste au final, parce que en gros t'es vraiment tu vois le plan juste au-dessus de toi et inversement les gens d'au-dessus voient en dessous et c'est toi. C'est un peu particulier, je pense, à imager quand même.
Oui, tout à fait.
Je pense, Mathieu, tu comprends
mais complètement. D'ailleurs, en fait, c'est intéressant, c'est de voir le dessin qu'il y a, parce que par exemple, donc Bytopia n'est pas du tout décrit en 5 E, mis à part ça, Bytopie, ce que je trouve. Enfin bon, assez étonnant comme traduction. Enfin, en tout cas, ils sont pas allés la chercher dans les limbes. Et
Bytopia, parce que tu as deux couches, machin, et puis comme je dirais le bail, donc je te le dirai un peu plus tard.
Bail, oui, le à côté d'eux, mais c'est tu vois le fait, tu vois, qu'elle se... Alors, le symbole en tout cas est bien fait. On vous imaginez un sablier de manière schématisée. Mais moi, c'est que j'aime beaucoup, c'est ce côté où il y a Upside Down, mais également il y a un côté Inception, tu sais, quand tout se plie au-dessus de toi.
Ah oui, effectivement, il y a peut-être un peu de ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais, c'est vrai que j'ai oublié de le citer, le type, c'est loyal, bon et neutre bon, en termes d'alignement. Donc, c'est un royaume qui se veut quand même, enfin, c'est un plan qui se veut capitaliste, hein. Donné que je te le donne en mille, hein, il s'agit du paradis pour les gnomes, ou en tout cas composé à 90% de gnomes, c'est les francs français, hein, on notera. Et là, tu vas retrouver le panthéon des gnomes, mais aussi tout plein de gnomes et tout ça. Et sachant que il y a un côté où on pousse vers la création, l'activité de tout cela. C'est aussi un grand lieu de commerce où tu peux acheter justement plein de prototypes de gnomes et ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que la première couche, elle est vraiment plus celle qui est au-dessus, hein, toujours quand. Ouais. Quand vous arrivez sur la première couche en général, et puis la deuxième couche, il faut descendre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la première couche, elle est vraiment plus nature, tranquille, justement, c'est là où t'as le marché, ce genre de choses. Tandis que de l'autre côté, c'est un peu plus rocailleux, c'est un peu plus. Les hivers sont bien froids, les étés sont bien chauds, il y a beaucoup de vent. Mais bon, c'est quand même un paradis. Mais c'est là, sur la deuxième couche, où tu retrouves justement les dragons d'Adamantim. C'est leur endroit de prédilection. Donc, si tu voulais placer dans le multiverse, ils sont vraiment là. Ils sont assez rares quand même, les dragons, parce que ce sont des dragons monstrueux. Et sur ce plan-là, ils ont même un souffle spécial qui permet de te souffler dessus et tu es bloqué. Dans le temps, donc je pense que c'est le sort time stop ou quelque chose comme ça, 9e niveau, bah ils ont ça en souffle d'attaque, mais uniquement sur le plan, étant donné que c'est un peu particulier. Comme je vous le disais, il y a ici le panthéon des gnomes, et pour les 7 gnomes, il y a 7 collines, et là-dedans, il y a différentes choses. Tu peux recevoir des bénédictions apparemment pour chaque dieu, mais ce qui est intéressant comme endroit, c'est la forge de Mithril, étant donné que ce serait l'endroit dans le multiverse où il y aurait le plus de métaux accumulés. Donc là, si t'as besoin d'une arme d'un métal, imaginons Mithril, voilà, super rare le Mithril, tu sais pas où y aller, bah voilà, faut faire les courses dans ce plan. Il y a aussi un petit truc intéressant, étant donné qu'il y a ce côté upside down, donc les gens utilisent des ballons pour envoyer les gnomes, ils sont bien, ils aiment bien faire les ballons, ils aiment bien faire les inventions, donc pour envoyer les choses de l'autre côté, ils utilisent un système de ballons qui calcule, s'élève jusqu'à un moment et puis repasse sur la gravité, parce qu'en fait le plan est divisé en deux, et c'est à ce moment là où t'as un changement de gravité qui s'opère, quoi. Donc si tu as deux montagnes et que tu as le plan qui divise en deux, si tu sautes de l'autre côté, bah tu vas être attiré suffisamment par la gravité de l'autre côté, mais faut te réceptionner correctement. Donc là, ils ont trouvé quelques petites astuces.
Mais c'est pour ça que je le trouve très sympa, ce plan, et qu'il a un côté totalement déstabilisant, mais en même temps, moi je me sens plus à jouer dans un plan comme ça que dans les autres.
Oui, les différents paradis, ils proposent différentes choses. Ici, on notera qu'il y a un titan, le frère de Prometheus, qui est Epitimus, je pense, qui parcourt le royaume et qui, de temps en temps, il sème le chaos parce que, bon, il passe et il est grand et, voilà, il fout un peu le bordel. Voilà, donc ça c'est... j'ai oublié de t'expliquer Bytopia. Bah oui, Bytopia, dans le sens acheter, parce que c'est un monde très capitaliste avec les gnomes. Et en fait, tu vis... mais t'achètes aussi, c'est-à-dire que genre le commerce est florissant là-bas, c'est-à-dire que tu achètes tout ce qu'il faut et la monnaie tourne.
Ah, de toute façon, oui, t'as la fameuse les collines d'or. Bon, voilà, ça dit beaucoup de choses, je pense.
Ça, surtout quand tu vois le patron, je pense, du Pantalon Gnome, il ressemble au monsieur du Monopoly, un peu dans ses atours.
D'accord.
Le plan d'après, il s'agit d'Elysium, qui est neutre bon. Là, c'est vraiment Elysium. Tu as certainement dû entendre ce terme si tu connais un peu la mythologie grecque.
Oui.
Donc là, c'est vraiment le paradis des héros, mais c'est aussi le paradis des gens bons. Des gens bons, globalement, dans le sens où ils ont sacrifié des choses pour aider les autres, tout ça. Donc c'est pas forcément que les héros, mais c'est vraiment les gens qui... Bon. À côté de ça, dis-toi, c'est le pire endroit pour les forces du mal d'arriver, étant donné que tout le plan, tous les habitants du plan, ils vont les tabasser. C'est-à-dire que t'as un alignement mauvais, ils veulent pas savoir. Tandis que, par exemple, sur Mont Celestia, si tu cherches à te repentir des choses que tu as faites, tu peux éventuellement passer les épreuves et tout ça. Non, c'est ici, tu es mal, tu es exterminé. Tu mens, tu commets un crime, tu es exterminé. C'est assez particulier. Le plan, il est divisé en 4 couches. Bon, je vais les faire rapidement. L'Armoria, donc c'est la première couche. Mm-hmm. Ouais, c'est celle où tu t'imagines les beaux champs, le raisin, voilà, vraiment le côté idyllique, on va dire, d'un paradis vraiment nature. À côté de ça, en dessous, tu as la couche de Eronia, je pense, qui est plus portée montagne, cascade, mais qui renferme aussi un certain difficulté à vivre, étant donné que c'est là que tu vas pouvoir éventuellement affronter certaines choses. Donc il y a aussi ce côté héroïque où tu vas affronter les choses, étant donné que c'est le paradis des héros, mais des héros qui décident quand même d'être peut-être un petit peu actifs. Tu as Bellerin, qui est une sorte de Dagoba. Il dit ça dans l'exemple d'Agoba, donc t'imagines vraiment une zone marécageuse et tout ça. Tu fais, c'est un peu un paradis, qu'est-ce que ça fout là ? C'est un peu particulier, t'en as, c'est l'endroit où tu vas trouver le truc un peu nature, où tu vas pouvoir trouver des épices, des choses à manger un peu bizarres, mais qui sont excellentes. Mais c'est aussi apparemment l'endroit où ils ont renfermé toutes les monstres qu'ils pouvaient pas tuer. Donc, c'est-à-dire les hydres qui, à chaque fois tu leur coupes la tête, ça repousse et tout ça. Bah, par exemple, là, ils les ont enfermés là. Donc, il y a ce genre de choses.
Faut pas ouvrir.
Donc, faire attention. Et surtout qu'apparemment, c'est l'endroit où certaines forces du mal, justement, j'en parlais un peu plus tôt, essayent de s'infiltrer pour libérer les choses emprisonnées, tout ça. Donc, il y a peut-être quelques petites aventures à faire.
Celui-là, il est effectivement beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, ils le disent, hein, ça fait, dans ses traits, il y a l'emprisonnement. Et ils disent que l'Hadès a ce même trait.
À côté de ça, il y a la dernière couche qui est la Thalassia. C'est vraiment la sorte d'image de Avalon, ou éventuellement des Y, j'ai l'impression, où tu vas retrouver les héros vraiment épiques, les rois héroïques, les sages. Qui sont vraiment sur ces îles, tout ça, où c'est calme. Là, c'est, apparemment, c'est calme. Tu peux aller pêcher, apparemment. C'est assez idyllique.
Ah ouais, c'est un paradis, alors.
Oui, c'est un paradis. Et justement, un paradis qui est particulier, étant donné que si tu restes trop longtemps, tu peux éventuellement avoir envie de rester là. Et il va falloir faire un petit jet de sagesse que pour éviter. Étant donné que si tu rates ce jet de sagesse, tu te transformes en habitant, donc comme les pétitionnaires au final, parce que tu les habitants âmes, on va dire ça. Donc, c'est comme si tu mourrais pour être incarné dans le plan.
D'accord.
Et donc là, il faudrait que tu aies un sort de souhait pour ressusciter la personne. Mais à côté de ça, la personne est toujours sous l'emprise. Bon, ça change un peu de règle, hein, de 5e, ils ont un peu... réduire ça. Et à côté de ça, normalement, tu es censé aussi faire une sorte de contre-sortilège pour faire en sorte de bloquer le désir que la personne a de rester ici. En fait. Étant donné que sa mémoire est un peu floutée, ce genre de choses. Donc c'est un peu particulier. Mais en tout cas, là, tu risques de ne pas vouloir quitter les lieux, étant donné que c'est tellement idyllique. Comme endroit. À côté de ça, on peut noter que les dieux qui habitent là, Pelor, Mystra, Lathander, Isis, Ishtar, Hathor, tu as aussi le dieu elfe des Blitzinger. Donc là, j'ai juste mis parce que. Il y a toute une liste. Hein. Et Tamara, c'est une déesse draconique que j'avais joué pour un de mes personnages. C'est pour ça que j'ai décidé de le citer. Voilà, c'est une déesse que tu retrouves dans. Tu dois aller dans les Draconomicon, ce genre de choses pour aller trouver. C'est vraiment pas un truc qui est développé en 5e, mais voilà, vu que tu la connaissais, je l'ai mis. Donc voilà, donc vraiment héroïque tout ça. Ne pas commettre de crime, sinon pend ton cul. J'ai envie de dire. Ah oui, et apparemment c'est très très bien pour le soin parce que tu es vraiment les soins sont doublés à cet endroit, ce genre de choses. Donc il y a plus de choses à dire bien sûr pour chaque plan, mais voilà, ça vous fait un petit résumé de tout cela.
Ah mais c'est encore une fois, c'est tu pourrais quasiment avoir un supplément par plan de tout ça quoi. Enfin,
ah oui oui, je pense légitimement quand j'ai fait les recherches pour l'épisode, je me fais on pourrait faire un épisode un épisode par plan.
C'est très impressionnant, je trouve. Et c'est vrai que c'est cette voilà. Je redis, c'est qu'on est dans une masse qui est complètement, totalement inexploitée. Et puis qui je pense, était amenée à disparaître de toute façon. Parce que si elle avait été appelée à revenir, je pense qu'il l'aurait fait depuis longtemps. De toute façon, on fera notre émission sur à quoi s'attendre pour Donjons et Dragons. Mais on est quand même... je trouve ça triste. Je trouve ça triste de voir ça. Mais en même temps, après, à côté de ça, je dis ça, mais... j'ai jamais entendu parler de gens autour de moi qui, que ce soit en troisième, que ce soit en quatrième, qui jouaient avec le manuel des plans. Quoi.
Oui, oui, je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail de MJ, parce que tout ce que je viens de citer en tant que MJ, tu dois le connaître. Tu dois te renseigner sur tout ça, tu vas pouvoir. Il n'y a pas d'aventure toute faite, tu te démerdes. c'est ça qui est un peu dur aussi. Et on est aussi sur des échelles, il y a des divinités, il y a des machins, il y a plein de choses où ça risque d'être compliqué, ou même tes joueurs ils font non, les dieux, non, on reste loin, tu vois.
Oui, non, mais c'est ça hein, que je trouve. On est ailleurs. On est ailleurs, t'es loin quand même de ton aventure, on est dans une auberge, c'est fou.
Ah oui.
Mais ça que je trouve super, parce que y a, là tu parlais de Bytopia c'est vraiment super comme, oui. Comme monde. Donc, il faut trouver le bon moyen, il faut trouver la bonne approche pour pouvoir le faire jouer.
Bon, passons maintenant au plan suivant, il s'appelle Beastland, qui est connu aussi sous le nom de Happy Hunting Ground. Donc,
alors en français c'est la Terre des Bêtes.
Voilà, la Terre des Bêtes. Et pour le deuxième, tu nous traduis le...
Alors, tu me dis Happy Hunting Ground.
C'est ça.
Donc, je passe pour la traduction, là.
Ah, Mathieu donne sa langue. Ah. Sa langue au chat.
Ah ouais, c'est la fièvre, on va dire ça. Elle est bien, voilà. Cette fièvre. Ça
donc, c'est... c'est le paradis de nos amis, nos animaux, tout simplement. Et c'est aussi particulier, étant donné que les animaux là ça s'incarnent une fois, ils vont au paradis, tout ça, et c'est là que tu pourrais retrouver tes animaux que tu as eu les compagnons rangers, ta monture de paladin, ce genre de choses, une fois mis à la retraite, ils se retrouvent ici, sachant que les animaux sont beaucoup plus intelligents. Là-bas, il y en a certains qui peuvent même parler et lancer des sorts, pour te dire.
Ça peut surprendre.
Et ce qui peut surprendre aussi, c'est que les habitants ne sont pas que des animaux, étant donné que je te disais que, en préambule, là, ton âme, elle est envoyée vers un endroit qui correspond éventuellement à ta philosophie.
C'est pas ton animal totem, si tu veux, quoi.
C'est ça. Et donc, tu pourrais te retrouver en tant qu'âme réincarnée dans l'animal qui te correspond le plus. Donc, si c'était malin comme un singe. Voilà, ceci a été facile. Ou un renard, ou un gorille, genre de choses. tu as ces petites choses. En cinquième, ils ont fait un truc intéressant dans les règles alternatives que tu peux mettre en plus. Si tu tues une bête sur ce plan-là, tu dois résister à un jet de charisme, je pense, je suis plus sûr du jet à faire. Sinon, tu te transformes dans la bête que tu as tuée. Donc, il y a aussi ce côté où les animaux sont un peu maîtres et on te punit un peu de tuer ces pauvres bêtes. Sachant aussi que tout côté nature est là. Sachant que, c'est vrai que j'ai pas dit l'alignement du plan, on est sur du neutre bon et du chaotique bon. Donc, à ce moment-là, il faut savoir que tu as tout type d'animaux qui sont représentés. Que ce soit les paisibles moutons, nos amis les chats, ou les lions, les différents fauves et tout ça. Donc eux aussi, ils continuent un peu le cycle de la nature, sachant que les animaux sont aussi... ils revivent. Ils revivent s'ils sont tués éventuellement, ce genre de choses. Ça dépend un peu.
Alors c'est pour ça, je crois que j'ai mal compris ce que tu disais pour les hunting grounds. Ça doit être autre chose, parce qu'il n'y a pas de notion de chasse, en fait, vu que c'est leur paradis.
Oui.
C'est autre chose.
Oui, c'est ça. Ou c'est même eux qui chassent, tu vois. Tu pourrais être un lion ou ce genre de choses. Je pense qu'ils parlent aussi que c'est le paradis des lycanthropes. Une fois qu'ils sont décédés, ils arrivent là-bas. Nos amis les lycanthropes. Ah oui, les dieux ont très peu de pouvoir là-dedans. Donc si un dieu arrive là, il peut vraiment quasiment pas influencer l'endroit et tout ça. Ceux qui règnent sur ces territoires, ils sont appelés les Beast Lords, donc les seigneurs bêtes. Ils sont considérés comme des demi-dieux. Et là, il y en a beaucoup. Mais il peut en avoir de tout type. Dès qu'il y a un animal qui est représenté, il y a un seigneur bête qui est son pendant. Donc là, il n'y a pas de souci. Et ça peut être aussi, je trouve, ces seigneurs bêtes très intéressants, étant donné qu'ils peuvent éventuellement influencer son plan matériel, étant donné qu'ils ont une forme d'animaux, mais aussi humanoïde, où ils pourraient très bien se confier des quêtes, ce genre de choses. Donc il y a ces petites choses. Dans le côté un peu marrant, c'est il y a un beast lord ou un dieu qui s'appelle Father Bear, donc le père ours, et lui peut t'aider, donc il aide tout le monde tant que tu lui racontes une bonne histoire.
Ça j'adore. Alors, c'est un truc que j'ai fait assez régulièrement dans mes parties. Par exemple, il y a un personnage, alors c'est notamment à Lost Gods, il va t'aider si tu lui racontes une histoire, mais chaque joueur doit lui raconter une histoire. Et je trouve que ça rajoute beaucoup de choses, parce que des fois il y en a qui racontent une histoire qui est dans la partie, ou d'autres qui inventent totalement. J'aime beaucoup, moi, ce genre de choses.
Bah, trouver marrant, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Il faut savoir que il y a le dieu des centaures là, il y a une cité elfe, et là tu peux retrouver les elfes qui ont des ailes, vraiment des ailes là-dedans. Sachant qu'il y a des habitants, et il n'y a pas que des âmes aussi. C'est ça là, qui est un peu complexe aussi à s'imaginer, c'est qu'il y a des habitants dans les paradis qui sont vraiment des habitants qui vivent là, et pas juste des âmes où c'est le paradis. Sachant que j'ai oublié une grosse notion à vous expliquer, les amis, c'est que les âmes sont envoyées dans le paradis, mais elles ont un peu un but, c'est-à-dire que elles restent dans leur paradis pour un temps indéterminé, jusqu'à ce qu'elles décident de fusionner avec le plan même ou le dieu.
D'accord.
Donc c'est pour ça que tu retrouveras pas non plus des gens, ça fait des milliards, des milliers d'années qu'ils sont là. Éventuellement, ces gens-là, au bout d'un moment, ils se sont laissés absorber, ou voilà, ils ont laissé passer et absorber par le plan ou le dieu et ce genre de choses. Donc, il y a ce concept-là aussi, de ces âmes qui décident au bout d'un moment de passer le cap. Sachant que pour les animaux, c'est un peu particulier, étant donné que les animaux, au bout d'un moment, sont réincarnés dans d'autres animaux sur le plan matériel. Mais les différents seigneurs bêtes leur apprennent éventuellement une évolution ou comment survivre. Et donc, apparemment, si une âme se fait réincarner plusieurs fois, deviendra de plus en plus intelligente. Et c'est là que tu peux retrouver éventuellement ces bêtes mystérieuses qui ont l'air d'avoir une intelligence surhumaine par rapport aux autres.
Ah oui, c'est bien ça.
Ouais. Bon, là, je vous passe qui est différents géants, genre de choses. Que la magie d'invocation change un peu, étant donné que les bêtes ne sont pas liées directement à vous, elles ne sont pas forcément fidèles. Qu'éventuellement vos montures, vos compagnons pour les rangers deviennent férales, et donc ils vous quittent, mais ils reviennent quand même au moment où vous quittez le plan. Donc c'est un peu particulier. Donc il faut voir s'ils ont gardé ça ou pas. Bon, d'édition en édition, je suppose que ça a changé tout cela. Apparemment aussi, il y a un truc avec les nuages qui sont considérés comme des entités vivantes. Bon, je vous passe tous les petits détails. Voilà, vous chercherez par vous-même.
Ouais, non, mais c'est d'une richesse et d'une inventivité qui est quand même assez forte.
Tout à fait. Passons, plan suivant. Alors, on commence à se diriger un peu vers tout ce qui est chaotique maintenant. Donc, on a vraiment ici le plan chaotique bon, qui est Arboria, qui est peut-être plus connu sur le plan de Avandor.
Alors, français, donc dans la cinquième, c'est arboré, tel que ça a été. Effectivement, c'est Avendor, donc là aussi, il y a un choix qui a été fait, on va dire ça comme ça.
Un choix qui a été fait, sachant qu'il connaît un peu de noms, c'est-à-dire qu'il y a Avendor qui représente pour le panthéon des elfes, et Olympus qui est pour le panthéon des dieux grecs. Donc là, vous avez vraiment...
Je l'avais quand même.
Ah, ça, tu l'avais. Donc là, c'est là que vous allez retrouver le paradis de ces deux panthéons. C'est un plan où les émotions sont ultra présentes, où la météo, l'environnement, plein de choses peuvent changer brutalement. Donc il y a tout ce côté, il y a de la nature, il y a tout ça, il y a un côté fait bon vivre jusqu'à ce qu'il y ait une tempête qui décide de se déclarer dans les différentes couches. Il y a trois couches, il y a Avandor, qui est vraiment l'image du paradis qu'on se fait, les vertus, tout ça, machin. Il y a Aqualor, qui est le monde un peu aquatique, où là justement c'est un peu bizarre parce que il y a des zones
quand il est représenté, il est un peu représenté comme une chute d'eau.
oui, il y a des endroits où il y a des chutes d'eau, mais aussi il y a des mers qui sont
un océan éternel, c'est ce qu'il
c'est ça, et océan éternel, et mais il y a quand même un fond, c'est-à-dire que pour tout ce qui est Kraken et tout ça, ils peuvent se cacher dans les endroits des profondeurs, mais ce que j'ai trouvé un peu marrant, c'était que une grosse partie de l'océan était à pied, c'est-à-dire que tu as 3 feet qui est moins d'un mètre de profondeur. Ça, j'avais trouvé ça marrant. Et comme il y a le côté climat qui change beaucoup, il y a très peu d'habitations qui sont sur ce plan-là. Il n'y a qu'une cité en particulier, qui est là, je vais pas vous la faire, hein, je vais vous passer rapidement. Sachant que bah, d'un coup, tu peux aller pêcher, et puis temps calme et tempête. Quoi. C'est vraiment en quelques minutes, ça s'est transformé en tempête, et tu peux avoir des tsunamis. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui sont là. Et étant donné qu'il y a des tsunamis, bah, ça ravage pas mal. Il y a le dernier plan. Là, le plan, c'est Mithadir, je pense, qui est à la base. C'était un plan où il y avait une forêt, tout ça. C'était vraiment un plan aussi un peu paradisiaque, mais en quelconque raison, j'ai pas trouvé laquelle, ça s'est transformé vraiment en terre aride et devient un désert vraiment de sable et tout ça. Et ce plan A pourrait représenter l'idée de donjon, vraiment du donjon, les mausolées, ce genre de choses, étant donné que tu retrouves plein de ruines qui appartiennent à des civilisations d'un temps inconnu. Donc là, tu as que ça. À côté de ça, tu as quand même un point d'intérêt, c'est qu'il y aurait une fontaine magique. Si tu arrives à la trouver sur ce plan-là, c'est pas facile parce qu'apparemment elle se déplace et tout ça. Donc là, ça aussi, c'est ce que je te disais un peu avant. C'est compliqué pour trouver certaines choses. Mais si tu arrives à te baigner dedans, tu as un bonus de charisme pendant un certain temps. Donc voilà, pourquoi pas. C'est plus ou moins ce que j'avais sur ce plan-là. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses que par rapport à ce que j'ai noté, étant donné qu'il y a tout ce côté des elfes. Et donc il y a tout le paradis des elfes, il y a plein de choses à faire et à vivre là-dedans. Mais à noter ce côté fortement émotion, bah, côté chaotique aussi du plan, fait en sorte qu'il y a tout ça. Un petit mot, Mathieu,
pour ce plan-là ? Je réfléchissais à ce plan qui en fait semble pas forcément un plan très très grand. Et j'avais des images, notamment l'image de Interstellar. Quand en fait. Ils sont sur l'eau, puis il y a cette vague gigantesque qui arrive, ça me faisait penser, penser à cela. Donc. Et c'est ça, moi, qui me faisait sourire. Enfin, qui me faisait sourire, qui me faisait rêver. Enfin, je trouve que visuellement, c'est très intéressant.
Oui, il y a certains plans. Les deux autres plans, à part le premier où c'est vraiment un peu voilà, le paradis idyllique, tu retrouves du bétail, des olives, du raisin, vraiment le paradis à la grecque ou à la elfe, tout ce qu'il faut pour au cas où. Mais c'est vrai que j'ai oublié de préciser, si tu t'éloignes des cités de ce côté paradisiaque, tu peux tomber sur des bêtes mythiques, des trucs comme ça. Donc il ne faut pas trop t'éloigner sur le premier.
Tout à fait.
Et voilà, je pense qu'on va entamer le dernier plan, comme ça c'est fait, on vous retient pas sur un épisode de 2 heures non plus les amis, hein. Donc on a passé beaucoup de choses.
Oui, parce qu'on précise, on n'est pas sûr que la semaine prochaine il y ait un épisode, et, oui. Et justement c'est pour ça, voilà, on continue. Alors, quel va être le dernier?
Alors le dernier plan que je vais te proposer aujourd'hui, Mathieu, c'est Isgard. Donc Isgard, ça sonne peut-être un peu d'une certaine connotation. Là, globalement, ce sera le paradis de tout ce qui est nordique, viking, etc. Nous sommes sur un plan chaotique bon, chaotique neutre. Et là, tu vas retrouver plus ou moins tous tes clichés de fantasy, de paradis sur tout ce qui est viking, nordique. Donc tu vas avoir... C'est un paradis où... C'est vraiment réservé aux guerriers. Et aux guerriers qui veulent encore se mettre des mandales après avoir trépassé. C'est-à-dire que, comme on a pu voir avant, tu as l'Elysium ou le Mont Celestia ou encore le tout premier Arcadia. Ou Arcadia, tu te repousses, tu es chill. Vraiment là, tu profites du beau paysage et tout ça. Et non, là, Isgard, c'est tu te mets des grosses patates à longueur de journée. Et sachant que, quoi qu'il arrive, si tu es une âme, un pétitionneur, sur ce plan-là, tu es ressuscité tous les matins. Donc peu importe comment tu es tué, tout cela. Et ça peut mener à quelques interactions avec les joueurs un peu particulières, étant donné que eux, ils veulent pouvoir éventuellement se frotter à plus fort qu'eux, ou te challenger parce que t'as une jolie épée ou un bouclier qu'ils ont envie. Et donc c'est un peu la loi du plus fort. Et eux, de leur côté, ça leur dérange pas de mourir, étant donné que
bah oui.
ils vont revivre, tandis que toi,
ils sont déjà à la maison.
Si tu meurs ici, tu meurs. à condition, éventuellement, tu as peut-être une chance de t'en sortir, étant donné que sur ce plan-là, il y a les Valkyries, et les Valkyries, si tu meurs d'une façon héroïque, tout ça, que t'as un énorme badass, elles peuvent décider de faire de toi un. Je reviens plus sur le terme.
Je pourrais pas te dire là.
Donc les fameux soldats d'Odin dans les hommes, enfin dans les halls, donc vraiment les guerriers pour le Ragnarok. Donc et si tu es choisi, en plus d'être connu comme un héros très très puissant, tu gagnes des nouveaux pouvoirs qui t'amèneraient carrément à être une l'équivalence d'une créature de difficulté 20. Voilà. Sympathie. Voilà.
Oui.
Après, t'es obligé de servir contre Ragnarok, tout ça. Donc, t'es un peu embêté quand même. à côté de ça, donc, il y a tout le côté Azur, Vanir, donc c'est les différentes familles nordiques et tout ça. Mais sachant que il y a deux grandes choses, tu peux soit en général, c'est-à-dire connu en tant que héros, aller dans le hall d'Odin ou dans le hall de Freya. Odin, où ça va plus être où tu vas retrouver le côté baston vraiment, où on se met sur la gueule.
Alors ce qui est intéressant en plus, là, tu vois, j'y repensais, c'est que ils reprennent dans la vision du monde, ils reprennent aussi le concept de l'arbre, quel concept d'Yggdrasil, quel concept nordique.
Oui. Ça aussi, oui. Ouais.
J'ai l'impression qu'il y en a deux en fait dans le jeu.
Oui, tout à fait, il y a plusieurs représentations des mondes et tout ça. Pour le côté Freya, dans les halls de Freya, de ce côté-là, tu vas te lancer dans des défis de compétences, donc l'archerie, la broderie, j'en sais rien, voilà, ce genre de choses, et d'autres types de rituels de fertilité. Voilà, on vous renvoie à l'épisode
69.
Voilà, 69. pour tout cela, donc éventuellement tu seras honoré de participer à certains rituels de ce côté-là. Bien sûr, dans ce... ça c'est vraiment la première couche, tu vas retrouver aussi tes autres dieux nordiques, Heimdall, tout ça. Faut savoir qu'à part les grands halls des différentes divinités là-dedans, il n'y a pas beaucoup de... à la surface en tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est vraiment des grands halls et puis il n'y a rien entre tout ça. Il y a très peu d'habitations, donc t'es vraiment soit t'es dans un lieu ou un autre. À côté de ça, ce qui est aussi un peu particulier dans ce truc-là, c'est que la majorité du territoire est composée en îles. Apparemment, si t'es au-dessus, au niveau de la terre, t'es sur Asgard,
ouais.
Donc la première couche. Si tu es en dessous, c'est en feu. Ok. et là, tu es sur...
Je me demande si c'est pas Muspelheim.
Exactement, tu es sur Muspelheim, et là forcément tu vas retrouver tes géants de feu. Il n'y a pas grand chose là-dedans d'intéressant. Malheureusement, ils disent juste qu'ils préparent la guerre, Ragnarok, tout ça, et qu'ils forgent des trucs.
Comme d'habitude.
Voilà, et tu, éventuellement, si tu arrives là et que tu les déranges, bah t'as droit à une crémation gratuite. sinon, il y a une troisième couche, Nidalvir, qui est apparemment l'entre-deux. Je pense que c'est l'intérieur de ces fameuses îles, et là tu vas retrouver. Justement certains nains, les nains nordiques, parce que faut savoir que dans D&D il y a plusieurs types de nains, ou en tout cas
et
si
et
tu crois
et puis les nains nordiques ça forge, hein.
Ouais, ça forge. Et à côté de ça, on retrouve, je pense que je vous ai parlé rapidement lors d'un épisode, des bons drow, des bons dark elfes, et là on retrouve le royaume de Illithrae, la déesse que je vous disais, la seule bonne déesse drow qui fait en sorte d'essayer de remettre les drows sur le bon chemin. Et donc on a ce paradis-là, et apparemment ce serait un endroit souterrain avec plein de rochers, de gemmes, où il fait bon vivre.
Ah ouais,
pour les drows, c'est un paradis. Donc okay. Voilà, tu as soit Lot, qui te propose les abysses, tout ça, ou tu as Illithrae. Allez vers notre copine Illithrae.
Alors, ce qui est aussi, tu vois, je revérifie quelque chose, c'est de voir que la plupart des informations là que tu as pu nous donner, c'est des informations qui viennent de la troisième édition.
Oui, que, il y a beaucoup de choses.
La quatrième a bien eu un manuel des plans, mais alors, il faisait 160 pages, quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup moins de données. Puis bon, bah, la cinquième, c'est encore plus C'est encore plus rapide. Mais c'est un joli voyage hein, que tu nous as fait faire.
Oui, bah après j'ai brossé bon, mon Celestia, comme je vous disais, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans, renseignez-vous là-dessus.
Oui, oui, je pense qu'il y a... Moi je dirais que si des personnes veulent jouer, je pense que Bitopie, c'est quand même un des... Moi j'aime beaucoup... Bitopie, oui, Terre des Bêtes, je les aime beaucoup parce qu'il y a un côté qui change totalement de Donjons et Dragons.
Oui. Oui, 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 effectivement. C'est ce côté... Ou Arcadia, où t'es... Franchement, voilà. Là, t'es tranquille. T'es...
Oui, là aussi, ouais. Là, on t'embête pas.
Et c'est là que tu remarques aussi cette notion de paradis. On a la notion fait bon vivre, mais comme je t'ai décrit, il y a plein d'endroits où oui. C'est pas tu te prélasses sur le bord d'une plage, tout ça. Non, non, c'est tu bosses. Oui. Tu continues à bosser après la vie.
Oui, non, mais tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on... De toute façon, il nous reste encore des plans à faire. On a,
ah oui, oui, oui.
On n'a pas fait les inférieurs. Les inférieurs, oui. Il y a moins de lumière. Le budget est plus réduit hein, pour ce qui est de la lumière. Et puis, effectivement, on pourra continuer à redéclarer, enfin, à réexplorer. Mmh. Là, pour la prochaine émission, nous allons nous promener. On va faire une sorte de double sujet, en quelque sorte, qui sera peut-être d'ailleurs un thème qui va devenir récurrent, c'est la vie de l'aventurier. C'est-à-dire que le quotidien de l'aventurier. Et Fabrice, on fait un petit peu de mise en bouche là. Fabrice, tu disais, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est un aventurier ?
Oui.
Et attention, on ne parle pas des factions, des choses comme ça. Parce que les factions, elles vous accueillent, mais qu'est-ce qui fait qu'on est un aventurier ? Et puis on parlera des auberges. Des auberges et de la nourriture. Parce que bah, la nourriture, on en parle tout le temps. Mais finalement, est-ce qu'on joue la nourriture ? Est-ce qu'on peut mourir de faim quand on est niveau 15 ? Je sais pas. Donc voilà.
On invitera peut-être un Halfling pour l'épisode sur le côté nourriture.
Voilà, et exactement. Bah, à propos d'ailleurs d'Halfling, celui qui nous accompagnait depuis que Maxime Chatham est passé n'était pas là aujourd'hui. Okay. Franchement. En tout cas, merci pour ce grand tour, Fabrice.
Et puis, j'espère que j'ai pas été trop non plus dans les informations. Je sais que j'en ai beaucoup donné, mais que ce sera digérable quand même par la plupart d'entre vous.
Mais je pense surtout, de toute façon, qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaissait pas. Donc, ça, c'est vraiment ça. Et puis, nous vous souhaitons de passer un bon moment. Si vous allez à Mons, Trolls et Légendes, n'hésitez pas à venir faire un coucou à Fred et Fabrice. Hein, Fred, c'est notre monteur. Et puis, comme je le dis, tout cela n'est que du jeu. Et que vos parties soient belles.
La prochaine fois.